Voilà, on est lancé. Donc, ce soir, le thème qui vous a peut-être intrigué, le Big Bang, le Bouddha et Freud, sera une introduction, une première présentation vraiment sur le cours. Donc, pour ceux qui connaissent déjà le cours, pour ceux qui m'ont déjà entendu ailleurs au Salon du Bien-être, et puis aussi pendant la première séance, il y a quelques semaines, voilà, vous allez peut-être entendre quelques petites choses qui sont déjà familières. Voilà, pour les autres, j'espère justement vous donner un premier aperçu vraiment des grandes lignes et des grands courants de ce qui est cette œuvre remarquable d'un cours en miracle. J'ai organisé cette petite affichette qui résume les prochaines séances, les prochaines rencontres. Donc, n'hésitez pas à prendre ce petit de pliant. Avec pour la prochaine, en fait, la prochaine séance sera déjà la semaine prochaine, parce que j'ai essayé de réserver cette pièce pour le premier et le troisième vendredi par mois. Mais voilà, la semaine dernière était déjà occupée, alors ça a reporté cette réunion pour ce soir. C'est pour ça que voilà, on redémarre encore la semaine prochaine tout de suite avec une autre réunion. Puis après, ça sera décalé de deux semaines, premier et troisième vendredi par mois. Donc, pour la semaine prochaine, le titre s'appelle « La mythologie de création du cours, une histoire unique ». On va en parler un petit peu déjà ce soir. Et puis, on va élaborer beaucoup plus cette histoire la semaine prochaine, parce que ça forme vraiment la structure du travail du cours par la suite. L'ensemble du travail du cours est basé sur une idée de création, c'est-à-dire d'où nous venons. On va en toucher un bon petit mot ce soir, et puis on va entrer beaucoup plus vif dans le sujet la semaine prochaine. Ce qui est fascinant avec ce cours, c'est qu'il est assez riche en idées et matières par rapport à nos origines, et l'origine qui détermine notre expérience dans ce monde et par la suite ce que nous devons faire pour nous en sortir, pour aller un petit peu mieux. Je vais parler deux minutes pour vous donner une petite introduction dans l'ensemble du livre, d'où ça vient pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis après, on va aller directement vraiment dans le vif du sujet et voir comment Bernard il va possiblement lier les trois courants de Bouddha, Big Bang, Freud et d'autres encore. Parce que si le titre pour ce soir s'appelle le Big Bang, Bouddha et Freud, ce n'est pas juste pour faire sexy, pour vous attraper. C'est parce qu'effectivement, on intègre ces trois courants, ces trois questions qui sont posées par les différentes matières au cours d'un travail avec le cours. Premièrement, nous pouvons dire par cette question du Big Bang, nous posons la question, qu'est-ce que c'est exactement la nature de l'événement de cet univers? D'où est-ce qu'il vient, peut-être pourquoi? À quel moment? Qu'est-ce qu'il y avait peut-être avant le Big Bang? Qu'est-ce que la science physique nous dit aujourd'hui par rapport à l'existence de ce monde, ou la nature véritable de ce monde? Et nous pouvons peut-être, si je me réfère de temps en temps à Einstein, c'est parce que c'est resté dans la ligne des symboles, des personnages qui représentent chaque domaine. J'ai choisi Bouddha pour l'esprit, Freud pour la psychologie, et puis Einstein pour le monde physique, pour la science. Donc Einstein, on connaît assez bien. Le Bouddha, on sait ce qu'il représente généralement. Voilà, c'est la vie spirituelle. C'est une réflexion sur la nature de la vie, ma place dans cette vie, qu'est-ce que c'est l'âme, qu'est-ce que c'est notre objectif, comment se sentir mieux, mais du point de vue esprit, spirituellement. Bien sûr, Freud qui nous a aidé énormément à comprendre les mécanismes de ce soi que je pense être dans cette vie ici. Une fois qu'on a déterminé que l'univers existe, je suis un être dans cet univers, du moins quand je me lève le matin, j'ai l'impression d'être quelqu'un. Donc Freud nous a aidé énormément à comprendre, avec d'autres grands psychologues, j'ai choisi Freud pour une raison particulière, Mais en même temps, il représente, il est peut-être le psychanalyste le plus connu, celui qui a fait vraiment connaître les mécanismes de l'esprit, mais de l'ego défini. Bon, nous allons parler un petit peu de ça, exactement la définition de l'ego qui diffère un petit peu de celui de Freud, qui est plutôt bouddhiste justement. Et voilà, aussi je vais vous présenter deux autres personnages aussi bien connus que Einstein, Bouddha et Freud, et notamment Jésus. Jésus, je ne pense pas qu'il a besoin vraiment d'être présenté, mais il est très important pour le cours dans la mesure qu'on attribue l'écriture ou la source d'inspiration pour ce livre à Jésus. Ne fuyez pas tout de suite. C'était, je dis ça pour une raison très, très, très concrète et très, très valable, c'est qu'il s'identifie, d'accord, dans cette œuvre comme Jésus. C'est assez. Voilà, la seule façon que je peux vraiment exprimer ma conviction que ce n'était nul autre que Jésus, c'était en lisant ce livre. Parce que ça m'a pas laissé avec une doute qu'un être assez extraordinaire qu'il a lu, qu'il l'a écrit. C'était tellement évident de toute façon que ce n'était pas l'auteur elle-même, Dr. Helen Schackman, qui l'a écrit. Je vais en toucher deux mots tout à l'heure. Mais si Einstein représente la science, si Bouddha représente l'esprit, si Freud il représente la psychologie, Jésus il représente l'amour. Voilà. Il représente l'amour, la compassion, le pardon. Et donc la cinquième personne dans cet ensemble de personnages et de caractères, il est le plus connu de tout le monde. Et c'est Jeannot Delpech, oui. Il est beaucoup plus connu que les quatre autres. Je vais vous laisser un petit instant pour réfléchir. Je vous promets que vous le connaissez extrêmement bien. Vous connaissez beaucoup mieux que les autres. Sans Jeannot Delpech, les autres n'auraient même pas besoin d'exister. C'est qui Jeannot Delpech? Jeannot Delpech, c'est la personne que vous avez croisée sur la route ce matin, qui vous a doublé sur le virage où il ne fallait pas. C'est celui qui ne vous a pas cédé la priorité. C'est celui que vous avez croisé dans le fil à la boulangerie, qui vous a légèrement devancé juste pour passer devant vous. C'est le collègue au travail qui ne vous a pas salué comme il fallait, comme vous avez l'habitude d'être salué peut-être. C'est peut-être le chef qui ne vous reconnaît pas. C'est le chef peut-être qui se met plus devant et vous plus en arrière. C'est peut-être un proche qui ne fait pas, qui systématiquement pousse vos boutons. Systématiquement fait les choses vraiment que vous pensez, que la personne sait qu'elle ne doit pas faire ou il ne doit pas faire. Et qu'elle fait quand même, qu'il fait quand même. Ça c'est Jeannot Delpech ou Marianne Delbos, c'est comme vous voulez. Donc, ouais, vous êtes en train de choisir. Ouais, oui, j'ai un autre nom pour la personne. Ouais, c'est pas Marianne, c'est pas Jeannot, mais je connais la personne, voilà. Oui, Marianne Delbos, oui, bon, voilà. Ça c'est restant bien au sud, hein, avec ces petits noms. L'idée, c'est de trouver la personne qui vous enquiquine, qui vous embête, ou la série des personnes. Allumez la télévision si vous cherchez, voilà, si vous avez du mal. Je promets, vous regardez les infos le soir, dans 10 minutes, vous allez trouver 2, 3, 4 Jeannot Delpech. Voilà. Et cette personne va venir et revenir dans nos vies et va revenir aussi dans nos conversations du cours. Je vais m'en servir beaucoup parce qu'il est très important. Il va nous aider, on va se faire soutenu par Einstein, Bouddha, Jésus et Freud. Oui, comment oublier. Non, parlons pas de tous les autres aussi qui sont derrière nous pour nous aider justement à affronter et trouver une façon de mieux faire avec ces personnes qui nous enquiquinent. Ces personnes qui nous font comprendre d'une façon tellement flagrante, nous ne sommes pas aussi évolués peut-être que nous souhaitons être. Nous ne sommes pas aussi bien dans la paix que nous souhaitions être. Et que la paix semble des fois moins facile à garder et à saisir que ce que nous souhaitions. Voilà. c'est la personne qui est responsable pour la gêne dans ma vie. Et il y en a. D'accord. Donc, je vais y revenir. Mon idée, c'est de rassembler tous ces éléments et tous ces différents personnages pour nous aider avec Jeanne Houdelpech. Parce que si jamais nous pouvons nous donner des outils pour nous aider avec ces gens qui nous enquiquinent, peut-être on va avoir vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose, de vraiment avancer sur notre chemin. Voilà. Ces rencontres que je vais donner pendant jusqu'au mois de juin, fin juin, vont regrouper ces questions et nous allons revenir dessus, sur questions encore et encore. Qu'est-ce que nous faisons ici? Pourquoi? Parce que la particularité du cours, c'est que ça nous donne une métaphysique pour comprendre pourquoi nous avons nos questions d'abord, pourquoi nous avons nos expériences. Et on revient dessus pour nous rappeler l'origine de ces expériences tous les jours. Les expériences avec Jeanne Houdelpech et des autres ne sont pas là par hasard. Ne sont pas là par hasard. Le but, l'objectif, l'intention, la motivation, nous allons revenir dessus. C'est extrêmement important dans la théorie du cours, dans la psychologie ou la théologie, si vous voulez, du cours. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons avec nos confrères? Qu'est-ce que nous cherchons avec l'autre sur la route? Avec l'autre qui est dans le fil d'attente juste devant nous? Avec l'autre, avec la personne au bout du fil à l'administration? Ou à la banque, ou la compagnie d'assurance, ou le service de messagerie, ou qui rebascule sur choisissez numéro 1, 2 et 3. Voilà. Ce genre de choses. Donc, nous allons revenir dessus. Je donne aussi un petit mot maintenant, au cas où j'oublie plus tard, que si pendant ces rencontres, normalement ces rencontres s'arrêtent à la fin du mois de juin, mais je réfléchis à l'idée de faire des stages d'une journée pendant l'été. Donc, si des gens s'intéressent à ça, nous pouvons en parler, nous pouvons organiser quelque chose. Juste brièvement sur mon petit parcours, c'est simplement parce que je pense que ça illustre l'histoire de tout le monde. Ce qui m'a emmené sur ce chemin-là, c'était une grosse déception. Voilà. Je pense que nous connaissons. Il n'y a pas un être, c'est impossible qu'un être humain existe et qui n'a pas connu une déception. Il y en a peut-être certaines déceptions qui sont plus grandes, qui nous font penser que, tiens, il faut vraiment que je trouve une autre façon de faire. Et ça m'est arrivé quand j'avais 24 ans. J'avais fini mes études, j'avais eu une grande chance de pouvoir faire des études aux États-Unis. Une fois sorti de mon pays, j'avais qu'une envie, c'était de ne pas retourner en Australie. Je voulais rester aux États-Unis. La seule façon de faire, c'était en fait de trouver une place dans une grande banque d'affaires qui était seule organisation habilitée vraiment à payer un étranger pour le fameuse carte verte, green card, pour qu'il puisse rester travailler pour eux. Donc j'ai passé mes 5 ans d'études à faire que des études sur axées vers cette embauche. Après 5 ans d'études, j'ai eu la chance d'avoir 2 lettres d'acceptation de 2 banques d'affaires sur Wall Street. Ma première réaction quand je les ai eues dans le courrier, c'était que j'avais fait le plus gros erreur de ma vie. C'était intuitif, c'était dans mes tripes. Je ne pouvais pas l'expliquer, je ne savais pas pourquoi. J'avais passé effectivement 5 ans à penser qu'à ça. Et au bout du compte, je n'allais pas m'y plaire du tout. J'ai passé 6 mois là-bas et j'ai décidé de partir. Pourtant, j'avais un salaire assez astronomique, surtout pour l'époque. Je pense que j'avais calculé une fois, c'était de l'ordre de la première année d'embauche dans une entreprise. Et j'avais 24 ans, et c'était une histoire de 80 000 euros. Non, c'était bien plus. Ça m'étonne maintenant. C'était bien plus, c'était beaucoup. J'avais tout ce que je voulais. J'avais l'appartement, j'habitais vraiment la ville la plus merveilleuse de la planète, surtout à l'époque. J'avais tout ce qu'un garçon à 24 ans pouvait imaginer avoir. Et je ne pouvais pas être plus malheureux. Je n'étais pas du tout à ma place, je ne me sentais pas bien. Je savais que je n'étais pas au bon endroit. Mais tout ça, c'était une chose. Mais la question qui me préoccupait le plus, c'était comment j'aurais pu me tromper autant? comment j'aurais pu savoir si peu sur le bonheur et sur la satisfaction de pouvoir passer 5 ans et beaucoup d'argent à faire les études pour quelque chose qui n'allait plus me servir en fait. Qu'est-ce que c'est la nature du bonheur? Qu'est-ce que c'est la nature de la satisfaction? Comment être heureux dans ce monde? Je suis parti de New York, mais en fait, je suis parti avec un énorme don. Parce que quand j'errais dans les rues de New York à me chercher, j'ai croisé quelqu'un dans un café qui m'a présenté ce livre. J'étais en train de lire un autre livre, une œuvre de quelqu'un qui s'appelle Seth et Jane Roberts sur la nature de la réalité. Il l'a vu, il m'a approché, il a dit « Je pensais que vous aimiez bien un cours en miracle. » Comme ça. Je dis « D'accord, merci. » Je suis allé chercher le livre et j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, j'ai lu d'autres livres, mais ce livre-là, il me parlait spécialement. Il y avait quelque chose. Apparemment, je ne m'étais pas trompé parce que je l'ai pas quitté cette famille d'études depuis. Mais je crois que c'est tout le monde qui, si c'est uniquement des déceptions d'une vraie prise de conscience de ce qui est la nature de cette vie, la nature de ce monde, qui peut nous emmener, qui peut nous mettre sur une voie. La petite voix à l'intérieur qui dit. Tiens, j'ai pas encore trouvé ce que je cherche et je crois que je vais pas forcément le trouver là où j'ai cherché jusqu'à maintenant. Ce livre, ce cours, cette philosophie, cette école, c'est juste une autre voie, c'est une autre façon de présenter le grand chemin qui nous mène tous à notre foyer, à notre origine, si vous voulez. C'est juste un autre chemin. Il s'est dit lui-même dans le livre, il n'est pas le seul, il y en a plein d'autres. C'en est juste un chemin. Et c'est un chemin assez particulier, assez unique même. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi, les particularités de ce chemin. Il est arrivé le même genre de réflexion à l'auteur elle-même, Helen Schackman. C'était en 1965. Qu'elle était assise, elle, docteur en psychologie, rattachée à un centre hospitalier universitaire pour l'Université de Columbia à New York. Elle était assise en face de son supérieur et son chef et son collègue, docteur Bill Tedford, et ils disputaient encore pour la xème fois. Et je crois que cette fois-là, ils en avaient marre, parce que ce genre de relation, d'agressivité, perdurait entre eux et dans le département depuis déjà des années. Ce jour-là, pour X raisons, ils se sont regardés, il y a l'un qui a dit, il doit avoir une autre façon de faire, il doit avoir une autre voie. Et elle s'est entendue dire, je suis d'accord, je t'aiderai à le trouver. C'est la première fois qu'ils étaient d'accord sur quelque chose. Peu de temps après, elle commençait à entendre une voix intérieure, lui dire « Ceci est un cours en miracle, prends note. » Elle ne savait pas du tout ce que c'était. Elle pensait qu'il subissait une forme de psychose, de maladie. Elle appelait justement son chef, qui était un grand psychologue. Et lui, puisqu'il avait lu des livres sur les expériences mystiques, ne pensait pas du tout que c'était voilà, une maladie qui est tombée en schizophrénie quelconque. Il disait qu'il pensait que c'était une expérience mystique et qu'il ferait bien de faire simplement ce que la voix lui demandait de faire. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle avait du mal à faire, mais 7 ans plus tard, elle avait fini de transcrire cette œuvre de 1200 pages. Donc en 1972, l'écriture était principalement finie. Il fallait encore quelques années jusqu'en 1976 pour que ce livre soit édité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ceci est un cours en miracle. C'est juste un livre. C'est un livre autodidacte, auto-apprentissage, si vous voulez. Il y a 3 parties. Il y a le texte d'à peu près 700 pages, un livre d'exercices avec 365 leçons, qui constituent à peu près 400 pages, plus un manuel pour enseignants à la fin. Un petit mot sur le texte, ça donne vraiment le cœur de la philosophie et de la psychologie de l'œuvre. Le livre des exercices, c'est pour former nos esprits, pour nous entraîner à suivre la psychologie qui ça représente, parce que, voilà, pour vous donner juste un petit aperçu, il nous aide à comprendre qu'il y a en fait deux systèmes de pensée qui sont attachés à deux esprits. Esprit dans le sens mental, mais beaucoup plus large. C'est que, en anglais, on utilise le mot mind, et vous n'avez pas ce mot en français. Donc vous allez m'entendre dire esprit, deux esprits. Ce n'est pas l'âme, c'est quelque chose, c'est une capacité, une faculté, dans un sens de conscience, mais qui est au-delà du corps, et au-delà de la conscience dont nous parlons traditionnellement. Mais ça va devenir évident par la suite. C'est pour nous former à basculer de ce que nous appelons l'esprit faux en esprit juste. Voilà. Mais au fur et à mesure, ça sera clair parce que on a tous eu des moments de pensée très claire quand on a su on était dans la justesse. Ce n'est pas si mystérieux que ça. Même si, voilà, ma petite présentation là, je vous laisse avec quelques questions. Un petit mot sur le langage, très vite. C'est très poétique. Des fois, des gens peuvent trouver, surtout en français, que c'est difficile à lire à cause de ça. D'accord. Je suis d'accord. C'est difficile à lire. Je dirais que c'est autant plus difficile à lire en français parce que vous avez perdu quelque chose dans la traduction qui était impossible à traduire de toute façon. Ce que ce livre est en anglais est vraiment exceptionnel. Les deux tiers sont écrits en vers, d'accord, en vers blanc. Vers blanc, selon le rythme que Shakespeare utilisait pour écrire ses pièces, qui est le pentamètre iambique. Ça veut dire qu'il y a cinq tons. Et les deux tiers du livre sont écrits, vous pouvez les retranscrire simplement dans une colonne avec les cinq tons. C'est incroyable, c'est inimaginable, d'accord. Et c'est très, très beau. C'est très beau. Donc, si le langage est difficile à aborder en français, en anglais, d'accord, on ne comprend pas forcément les idées, les concepts, mais on est emporté par ce rythme. On est emporté par la beauté et ce rythme. Nous avons ça, c'est vrai qu'en anglais, que voilà, c'est impossible à traduire en français. Les traducteurs ont fait un travail, mais je suis vraiment formidable. Ça a pris très longtemps et c'est très difficile à traduire ce livre. À cause des nuances et la spécificité du langage et le côté poésie, il faut le traduire aussi avec exactitude. Sinon, on risque mal comprendre certaines choses, mal interpréter certaines choses. L'autre chose que je dois dire par rapport au langage, c'est que ça utilise beaucoup de symboles chrétiens. Donc vous allez trouver Jésus, Saint-Esprit, Dieu, expiation, pardon et plusieurs autres termes. On peut dire que le cours partage les mêmes symboles que la Bible, mais le cours les utilise pour une fin diamétralement opposée. Là où la Bible les utilise principalement pour définir un système de pensée, de particularité, des choses très importantes et très spéciales ici, et pour définir un dieu de dualité et un amour de dualité, le cours les utilise pour faire exactement l'inverse. C'est pour définir un ensemble, une théologie, un système de pensée basé sur l'unité et la non-dualité, sur l'acceptation, sur l'innocence, sur la pureté, sur le pardon, sur l'amour. Donc, il est venu, entre guillemets, pour retourner la formation chrétienne que nous pouvons avoir acceptée, pour enlever le côté jugement de ces concepts chrétiens, pour nous laisser, voilà, l'amour à la place là où il y avait peut-être le jugement. Ce qui est vraiment l'ensemble du travail du cours, c'est pour remplacer le jugement par l'amour. Je pense que c'est, oui, juste un petit truc avant que je lance vraiment dans le vif du sujet. C'est, je dois présenter juste Kenneth Wapnick, qui est mon prof. C'est parce que il était de grande utilité à Helen et Bill lors de la formation du livre, il est arrivé et il a été présenté à Helen, c'était en 1972. Ils ont travaillé de 1972 4 ans sur la reformulation, pour remettre le cours dans une forme appropriée pour une publication finale. Il était un très proche associé, un très proche ami de Helen. Et puis, ils ont vraiment appris sur le cours ensemble. Et donc, Helen et Bill, les deux auteurs, où lui, il était collaborateur, sont morts dans les années 80. Kenneth, par la suite, il est devenu grand enseignant du cours. Il a sa fondation d'enseignement aux États-Unis. C'était d'abord à New York pendant longtemps, et puis par la suite, depuis 10 ans maintenant, c'est en Californie. Et donc, lui, il est considéré comme l'enseignant qui a le plus développé avec le plus d'exactitude l'enseignement du cours. Parce qu'il y en a, il y a d'autres enseignants, mais c'est vrai que c'est très facile à dévier, à prendre ça et en faire d'autres choses avec que ce que ça a été destiné à faire. Et Kenneth, il est vraiment resté dans la ligne pure qui n'est pas forcément facile, qui est des fois vraiment difficile, mais voilà, au moins c'est clair. Ça tranche avec tout ce que nous avons l'habitude de penser. Et au fur et à mesure, peut-être si vous assistez à ces rencontres, je vais partager certaines de ces choses assez surprenantes avec vous. Je vais faire un petit peu ce soir, mais vraiment, on n'aurait pas le temps de tout aborder, bien sûr. S'il fait trop chaud, on peut peut-être ouvrir une fenêtre ou une porte. Et si vous craignez pas trop les courants d'air, ça dépend. Des fois, les gens n'aiment pas. On peut peut-être juste entre-ouvrir une... Je veux pas que vous vous assoupissiez trop. Ça, je serais chagriné. Voilà. Je ne peux pas vous dire. Il y a du café. Bon. Maintenant, fini l'introduction. Allez-y, on y va. Comment je vais ficeler ces trois sujets ensemble? D'abord, la science. Surtout la science physique, la science quantique. Les grands mystiques aujourd'hui ne sont plus les religieux. Non, c'est ringard, ça, presque. Les grands mystiques aujourd'hui, c'est les scientifiques. Parce que leurs conclusions nous font flipper. Voilà. Si vous écoutez vraiment ce qu'ils nous disent sur la nature de la réalité, vous allez courir vers la religion pour vous rassurer que ce monde est encore réel. Parce qu'eux, ils disent le contraire. Ils disent que ce monde n'est pas solide. Ils disent que le temps, juste octobre dernier, vous savez ce qu'ils ont découvert. Bon, quand même, ouais. C'était une grande nouvelle. Le centre de recherche à Genève, en Suisse, hein, ils pensaient avoir une erreur de la mécanique dans leurs instruments. D'accord? Ils ont fait des expériences et qui l'ont montré que il y a des particules qui peuvent voler plus vite que la lumière. Ce qui était impossible, selon les lois physiques d'Einstein, c'était impossible totalement. Sinon, ça casse la nature, littéralement, la nature de la réalité, l'espace-temps. Eh ben, désolé, mais ils ont trouvé des particules, des neutrinos. Neutrino, d'ailleurs, c'est très petit. Hein. Un neutrino, c'est tout petit. Mais ils peuvent l'envoyer 700 km sous la Terre vers un capteur en Italie. Il arrive trop tôt. Il ne doit pas arriver aussitôt qu'il est arrivé, parce que selon la lumière, il doit arriver après le temps, voilà, l'heure prévue. Et donc, un bit de plus, ce qui est cassé. Le temps n'est pas ce qu'on a cru, mais les grands physiciens se sont déjà posé la question. Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas encore expliquer pourquoi le temps avance et ne recule pas. Comme j'ai lu récemment dans un livre fascinant, un œuf qui casse. Pourquoi ça ne décasse pas? Ils ne peuvent pas encore expliquer physiquement, vraiment, pourquoi le temps ne peut pas reculer. La matière, bien sûr. La matière qui semble tellement sûre, notre repère dans la vie, c'est traversé par les milliards et les milliards de neutrinos tous les jours. À cet instant maintenant, je ne veux pas vous faire peur, d'accord, il y a aussi du vin. Nos corps sont traversés par des milliers de particules. Et pour ces particules, c'est quasiment des gaz. C'est nos corps, tout ce qui semble si solide. C'est pour un neutrino, passer à travers mon corps, c'est comme essayer de faufiler entre la Terre et la Lune. C'est plutôt facile à faire. Donc, ce que les grands physiciens sont en train de nous révéler aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout ce que nous voyons avec nos sens et nos yeux, c'est des apparences. Ce n'est pas la réalité. Et donc, je commence comme ça, juste parce que le cours va nous dire la même chose dans multiples et différentes formes. Ce n'est pas du tout notre travail dans ce cours, en utilisant le cours, c'est de douter tous les jours de la voiture qui m'approche. Tiens, il va peut-être me passer. Complètement, il va passer sur moi, il n'y a pas de souci. Il fait que des gaz. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas la base du travail, du cours. C'est un élément qui fait partie de sa structure métaphysique. Parce qu'il nous aide à comprendre que ce que je suis en train de vivre tous les jours n'est pas la totalité de la vérité. Donc, les grands physiciens aujourd'hui nous présentent l'idée que tout n'est pas ce qu'on croit. Nos perceptions sont extrêmement importantes. Ce qui rejoint quand même beaucoup certains courants spirituels. Il y a certains courants spirituels qui nous disent depuis longtemps de toute façon que ce monde est une illusion, que ce monde n'est qu'une apparence. D'accord? Les bouddhistes, les hindouistes, Lao Tzu en Chine, c'est assez oriental comme idée, mais il y a aussi quand même des traces de cette idée aussi dans l'Occident, avec notamment Plotin, qui disait qu'il y avait certaines idées semblables. Et c'est pour vous dire que le point de départ pour le cours, et c'est là où l'histoire va commencer ce soir, c'est quelque chose au-delà des apparences. Et ce qui est au-delà des apparences est une unité parfaite, une unité impeccable, une unité sans faille, sans déviation, sans différenciation à l'intérieur de cette harmonie absolument parfaite. Toutes les grandes religions, toutes les grandes spiritualités nous ont présenté l'idée d'un amour tellement magnifique, d'un amour qui dépasse toute chose dans ce monde, que seul l'esprit qui est complètement libre peut l'accéder, peut comprendre, non pas par connaissance, mais par expérience. Quelque chose qui nous dépasse, mais que nous savons intuitivement, ça existe et ça doit exister. Il doit avoir ce genre d'amour, et nous contenons tous la conviction quelque part, ou au moins l'espoir que ça existe. Le coup fait partie de cette famille de spiritualité qui dit que ça existe, et que c'est notre point de départ. Au début, ou à l'origine, nous faisions partie de cette magnifique unité, unicité pour certains. Nous étions tous ensemble, non physiques, donc abstraits dans une forme abstraite, avant l'arrivée de ce monde, avant l'existence de l'espace-temps et de l'univers. Nous étions tous, on ne peut pas dire ouf, c'était juste présent, d'accord ? Ensemble, sans différenciation entre les différents morceaux à l'intérieur, il n'y avait pas de distinction entre une partie et une autre. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas du tout ça. Alors, nous avons un début, nous avons une fin. La grande question que nous posons ce soir, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que l'unité est devenue la dualité. Ce monde ici, surtout selon les hindouistes, représente la dualité. Objet et sujet, moi et toi, bien et mal. Il y a toujours une opposition et un opposé dans ce monde de dualité. Dans le monde de l'unité ou de non-dualité, il n'y a que perfection. Il n'y a pas d'opposition, parce qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas une autre. Il n'y a qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'unité s'est transformée en dualité? Alors, c'est une histoire difficile à expliquer, mais je vais essayer de le faire. Je vais même utiliser un support. Tellement c'est difficile à saisir, parce que pour nous, nos esprits finis est très enfermé maintenant. Concevoir des choses tellement abstraites, bon, ça relève vraiment un défi, mais on y va. L'idée, c'est qu'à l'intérieur de cette parfaite unité, il y a une partie de ceux qui n'avaient pas de partie, de ceux qui n'avaient pas de différentes parties, il y a une pensée qui était posée. La pensée, la question, c'était, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que cette harmonie? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que cette ennuyeuse perfection? Est-ce que je ne peux pas me séparer de tout ça, juste l'instant d'être reconnu comme étant à part? Juste un petit instant. Est-ce que je peux demander au grand créateur le principe de cette unité, qui est responsable pour cette unité magnifique? Est-ce que je ne peux pas lui demander juste le temps de l'instant de me reconnaître un peu? Et à l'instant que cette question s'est posée, la dualité a commencé dans l'esprit de cette partie qui s'est posée cette question. Donc la question, c'était, est-ce que autre chose peut exister en dehors de la non-dualité parfaite, de cette unité parfaite? Et forcément, avec cette question, il y avait distinction, moi et l'unité parfaite. Donc, il s'est posé une grande question maintenant, parce que pour définir quelque chose qui n'est pas amour, il faut trouver l'opposé. L'opposé d'amour, c'est le non-amour. Donc, un état en dehors de l'amour ne peut pas être aimant. Ça doit être l'opposé, ça doit être autre chose. Et autre chose que l'amour, un état de non-amour, doit être rempli de chagrin, de peur, de haine, d'agressivité, de dualité, de conflit, d'opposition. Et nous disons dans nos cours, rempli de, surtout, culpabilité. Parce que l'idée de la culpabilité, c'est simplement que je suis responsable pour ce qui s'est passé. Avec l'idée d'une peur, c'est-à-dire, j'ai fait quelque chose, je suis responsable pour quelque chose. Et ça a une conséquence. Ça a eu une mauvaise conséquence. J'ai eu une pensée, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? La conséquence, c'est qu'en fait, j'ai changé la nature de la perfection en imperfection. La perfection n'est plus perfection maintenant. Je l'ai changé la nature du ciel. Et avec cette pensée, cette partie de l'ensemble que le cours appelle le Fils de Dieu, que nous pouvons aussi appeler l'extension, qui a décidé de se séparer du principe de création. Il s'est doté d'une idée de séparation, d'un état séparé, mais avec pour conséquence aussi un extrême sentiment de chagrin et de culpabilité d'être responsable pour ce qu'il a fait, ce qu'il pense avoir fait. Et c'est ça le truc qui est vraiment difficile à saisir. C'est que la perfection, c'est la perfection. La perfection ne peut jamais être altérée. L'unité parfaite ne peut jamais être autre chose que ce qu'elle est. Et c'est là où ces spiritualités nous aident, qui nous disent que tout est illusion. On a pu se séparer de notre source, mais que en illusion, pas en réalité. C'est une nuance extrêmement importante. Tout le long des 22 ans que j'étudie ce cours, j'ai dû apprendre qu'il n'y a pas eu de conséquences de la dualité, de la séparation. Et tous les jours, nous vivons l'idée qu'il y a eu une conséquence. C'est l'origine de la peur, c'est l'origine du chagrin, de la haine, de l'agressivité, mais nous en parlerons tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à représenter l'unité parfaite par cet œuf. Imaginons qu'un instant que cet œuf représente l'unité absolument parfaite. L'unité était un petit peu plus grand, d'accord, ok, et un petit peu plus parfaite encore. Mais bon, c'est tout ce que j'ai. Ce qui s'est passé, quand on s'est posé la question... Ah, ça marche. J'ai oublié ma feutre. J'avais je venais avec une feutre. Et voilà, j'ai changé de pantalon, plus de feutre. C'est dans le... Qui a dit qu'il n'y a pas de Dieu?
Oh, pardon.
Merci. Vous êtes prof pour avoir le...
Non.
J'ai demandé à un prof, il n'en avait pas. Bon. Un petit bonhomme. Si vous donnez des compliments, me donnez des compliments sur mon art, sur ma création. Voilà, ça... Ah oui, c'est ça. Bon, avant la pensée, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Après, tout noir, d'accord? Et donc, il n'y avait pas de petit bonhomme avant. Et c'est juste pour séparer que dans l'abstraction de l'esprit, toujours dans l'œuf, toujours dans l'esprit, il y avait une idée de séparation de moi et l'autre. Qui s'est rempli d'un sentiment de séparation maintenant, il pense avoir une idée de séparation, sachant qu'il est toujours dans l'œuf, là, il est toujours parfaitement intégré. Et puis, il est aussi rempli de ce chagrin, de cet énorme sens de culpabilité. Et la culpabilité entraîne, la culpabilité, c'est le sentiment d'avoir fait mal, d'avoir fait une erreur si importante que ça nécessite une punition. Une punition si exécrable, si terrible, que ça va l'anéantir. Donc, avec cette extrême peur qui remplit maintenant son esprit, il s'est dit, je ne peux pas rester ici, j'ai fait un ennemi du principe créateur, je sais qu'il va revenir pour chercher ma peau. Ce qui est à la base de tous ces sentiments de peur qui n'est vraiment pas défini. C'est le sentiment que quelque chose ou quelqu'un m'en veut. Et donc, dans l'esprit, il s'est dit, je ne peux pas rester en esprit, dans l'état d'esprit. Je sais que le principe créateur, il va revenir, il va arracher la vie que j'ai pris pour moi. Il s'est dit, il faut absolument que je me casse d'ici. Il a dit, je dois me casser. Voilà. Bang. Big, 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 bang. Et voilà. C'est produit le Big Bang. À l'instant que, entre guillemets, le Fils de Dieu... ce qui est nous, l'extension, c'est la partie du principe de la création qui a dit, allez, on y va, on veut plus rester à la maison. On se remplit de ce chagrin qui nous oblige, qui on s'expulse de la maison pour nous éclater en des milliards et des milliards et des multimilliards de morceaux, pour nous disperser, pour créer un monde où nous pouvons faufiler, nous pouvons rester jusqu'à une éternité et encore plus, parce que ça fait déjà plus de, je pense, 14 milliards d'années qu'on est ici, qu'on traîne, qu'on tourne. Et donc, le résultat à la fin, c'est l'évolution en humain. Je vais expliquer un petit peu tout ça plus la semaine prochaine. Ce soir, je vais couper un peu court pour qu'on puisse parler de Jeannot du Bos. Parce que Jeannot du Bos, il fait partie de cette unité. Nous sommes toujours une unité parfaite. Nous ressemblons à des morceaux, à des milliards et des milliards de différents morceaux. Nous sommes toujours cette unité parfaite. Nous sommes toujours cette partie de l'unité qui a décidé de partir de son foyer. Sachant qu'on n'a jamais pu vraiment partir qu'en illusion, qu'en apparence. Et c'est la beauté du cours pour moi, où on trouve vraiment cette rassurance extraordinaire qui nous rassure que nous ne sommes jamais partis de la maison. Nous sommes toujours là, assis dans nos grands fauteuils au ciel, si vous voulez, on a une autre réalité en même temps que ces corps physiques. On a une autre réalité, c'est l'autre qui se trouve dans cet état d'unité parfaite. La façon que nous pouvons l'exprimer ici pour nos groupes, c'est qu'on peut imaginer qu'en même temps que je suis ici, en même temps je suis ailleurs. J'ai une partie de moi, notre esprit, qui est assis très confortablement au grand ciel avec tous ses frères, et qui s'est endormi, c'est tout. Il s'est endormi dans son grand fauteuil, très confortablement, et il rêve d'un monde de séparation, d'illusion, de fragmentation, de peur et de culpabilité et de mort. Mais il rêve. C'est pas la première fois, peut-être, que vous avez entendu dire que ce monde est un rêve. Nous rêvons ici. C'est exactement ce sentiment. Ouais. Et vous savez aussi qu'à l'intérieur d'un rêve, nous avons tous eu des rêves qui sont tellement réels. Nous nous réveillons des fois en sursaut et on est heureux, on est content de savoir que ce n'était qu'un rêve. Mais le rêve était tellement réel. On aurait juré que c'était la réalité. Ici, c'est ce genre de rêve. Heureusement. Parce que quand on regarde vraiment clairement ce monde, ce n'est pas une partie de plaisir. On peut imaginer d'autres mondes plus doux, plus aimants. Surtout avec les événements qu'on a vus depuis quelques semaines. Pour avancer un petit peu plus, maintenant nous sommes... Bon, l'unité semble très loin. Je vous rassure. Voilà. Je vous rassure. Illusion, réalité. Voilà. L'œuf cassé ici dans le plastique, l'œuf entier dans ma main droite. Réalité ici dans la main droite. Illusion. Et maintenant, là, ce que nous allons voir, c'est que ça, l'œuf cassé, c'est ça qui est resté dans notre esprit tout au long de ce parcours des 14 milliards d'années dans cette vie ici. Œuf cassé, Janus du boss. C'est tout ce que je vois, c'est des Janus du boss partout. Pourquoi? Parce que le filtre que j'ai devant mes yeux, ça veut dire l'ADN maintenant intégré au plus profond de chacun ici, c'est œuf cassé, c'est unité brisée, c'est l'histoire pensant que le... Nous étions comme un énorme... vous savez ce que c'est un hologramme. Le particulier d'un hologramme, c'est qu'en fait, imaginez que c'est représenté sur une feuille de, sur une vitre. Si un hologramme est imprimé sur une vitre, ça veut dire qu'il y a une très jolie image en trois dimensions, encore sur les vitres. Si vous cassez le vitre, si c'est une image d'une maison dans une ville, ou d'une maison avec un jardin, vous n'avez pas un morceau qui était la cheminée, un autre morceau qui était une fleur, un autre morceau. Non, quand vous brisez une hologramme, chaque petite brisure, petit morceau, est l'image parfaite, exactement à 100% de l'ensemble. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes tous 100% la totalité de l'unité qui s'est séparée. Nous sommes tous l'unité éparpillée dans les milliards de différentes formes, les différents milliards de différents morceaux, et nous sommes absolument tous identiques, la même programmation, le même ADN, le même esprit, exactement tout, avec une forme différente. Donc, quand le vitre se brise, chaque morceau est différent en forme, mais si vous le regardez, vous allez voir la même image dans chaque brisure de vitre. C'est pareil pour nous. Utilisons les bons verres, les bonnes lunettes, nous allons pouvoir voir chacun exactement pareil. Nous allons pouvoir voir au-delà des formes. Et c'est ça qui est l'objectif du cours. C'est de nous apprendre à voir au-delà des différences pour voir l'unité ou les similitudes entre toutes les différentes personnes qui traversent notre vision tous les jours. Donc, Me voilà, je suis arrivé sur planète Terre. Je me suis réveillé il y a quelques décennies par le biais de mes parents. Je me suis venu ici sur Terre. Et voilà, je fais mon parcours dans cette vie et j'essaie d'être heureux. Et ça m'échappe. Mon adolescence s'est passée tant bien que mal. Surtout après, avec ma grande déception, j'ai commencé à comprendre que la satisfaction, le bien-être ici n'est pas gagné. Et donc, ce qui est en train de se passer, en fait, c'est que je commence à me réveiller à ma vraie nature. Et avec un peu plus d'insistance, je peux commencer à comprendre que tout chez moi n'est pas forcément très joli joli. J'ai beau à me dire, mais j'ai un joli visage d'innocence quand je me regarde dans la glace le matin. Mais en fait, on commence à soupçonner qu'il voilà, y a assez de choses, aussi assez de signes qui m'indiquent que tout n'est pas forcément aussi rose chez moi. Et c'est là, si je veux, et si je comprends qu'effectivement j'ai du mal à trouver le bonheur, la satisfaction ici, je peux me tourner vers une spiritualité quelconque pour essayer de comprendre ce que je suis. La force du cours, c'est qu'il est soutenu par un énorme corps de psychologie. Il nous aide à comprendre qu'on a oublié toute cette histoire d'unité cassée. Ça s'appelle le déni. Nous pouvons nous en souvenir. Ce n'est pas forcément l'objectif du cours. Et c'est juste pour dire que nous contenons le souvenir de ce qui s'est passé. La réalité de notre histoire. Nous étions dans un état d'unité parfaite. Maintenant, on est dans un état de dualité. Nous contenons tous le souvenir de ce qui s'est passé. Comment je suis arrivé ici. Mais voilà, le parcours est tellement effroyable. Est tellement parsemé de sentiments lourds et de chagrin pour l'instant, parce que nous pensons que c'est réel, que nous ne voulons pas le voir. Nous pouvons même dire nous ne voulons pas le voir parce que nous aimons notre indépendance. D'un côté, bien sûr, ça nous rend tristes et malheureux, mais de l'autre côté, nous sommes toujours en train de nous réjouir de cette indépendance. Il y a quelque chose. Je suis moi-même. Je me regarde dans la glace le matin. Tu es là. Même si je n'aime pas toujours ce que je vois le matin. Au moins, je suis là. Je suis quelqu'un. J'existe. Je marche dans la rue. Je dis bonjour au voisin. En partie parce que j'aime bien quand il me dit bonjour Bernard. Je suis là. J'existe. Je ne suis pas disparu, je ne me suis pas évaporé au sein de l'amour. L'amour, la parfaite unité de l'amour qui est juste derrière moi, partout, je sens la présence de cet amour, mais presque comme une agression maintenant, tant que j'insiste à rester moi-même ce petit morceau d'œuf cassé, de coquille d'œuf. Je suis un morceau de coquille d'œuf. Je pense être un morceau de coquille d'œuf. En réalité, je suis confortablement assis dans mon fauteuil, toujours à l'intérieur de l'œuf. Mais je crois être une brisure d'œuf cassé. Et donc, chaque fois que j'ai un sentiment que l'amour est juste derrière moi et qui ressurgir avec un sentiment de bien-être parfait, et je me sens partir un petit peu, quitter cette individualité tellement particulière et tellement chère à mon ego, et je sens une espèce de légèreté m'envahir et de bienveillance par rapport à mes confrères, soudain je peux avoir une remontée d'égoïsme ou de colère ou d'autres critiques, ou de condamnation, ou de maladie, pour me défendre, entre guillemets, pendant l'attaque de l'amour. Si vous avez essayé d'approcher l'amour divin, et si vous avez rencontré des difficultés de vous laisser imprégner par une idée d'amour plus grand que vous, et si vous avez subi certaines difficultés ou remontées de colère, même des attaques de critique ou de colère ou de peur, c'est tout à fait logique et normal. Et le cours nous aide à comprendre que nous devons prendre ce chemin très, très, très lentement, parce que le souvenir de ce qui est en réalité l'amour est tellement grand, tellement magnifique, que nous en avons peur pour l'instant. Voilà. Et c'est pour ça que le chemin spirituel, pour reconnaître notre origine et notre réalité au-delà de ces corps, on doit prendre ce chemin lentement et doucement, et progressivement, pour intégrer petit à petit ces tout petits instants de réalité ou de vérité au plus profond de nous, pour nous rassurer qu'il n'y a vraiment pas de mal à continuer à aller dans ce sens, à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à nos confrères, à relâcher notre jugement, à relâcher notre insistance sur nos différences. C'est moins facile que ce qu'on pense. Et peut-être vous êtes averti, vous savez à quel point c'est difficile. Je ne sais pas. Vous allez peut-être me dire. Donc, d'un côté, ce que nous avons fait, nous avons occulté tout ça parce qu'on a été trop impressionnés, ça nous fait trop peur. Mais un sentiment aussi grand que cette incroyable mais énorme culpabilité ne peut pas être juste occulté par une telle voile d'oubli, ce que le cours appelle un voile d'oubli. D'accord? Il parle des fois, il utilise des concepts freudiens, mais pas forcément les mots exacts. Donc, par exemple, la voile d'oubli, je ne pense pas qu'il utilise le mot déni, refoulement, certainement pas, mais c'est le principe exact. Et il appelle plutôt ça le voile de l'oubli, je pense. Et puis, un sentiment tellement fort ne peut pas juste être caché. Quelle gêne. Je ne sens pas de gêne, moi. Non, non, il n'y a pas de souci, moi, chez moi. Pas de problème. Et puis, soudain, rage. Soudain, quelque chose. Ça, c'est la projection. La projection, c'est le surplus que je ne peux plus cacher. Je l'extériorise et je déverse mon sentiment de mal-être sur d'autres personnes. Donc, voilà, on va faire entrer Jeannot Dubos sur la scène. On a besoin d'une bouc émissaire. N'importe qui. D'accord. Pour l'ego, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Ça peut même être la porte. D'accord. J'ai pris mon pied sur la porte, c'est pour ça. Tu te demandes pourquoi je ne suis pas bien, j'ai cogné la porte. Et si jamais j'arrivais à cette rencontre avec la porte, déjà remplie de cette culpabilité, je réfléchissais sur la nature de l'amour, je le refusais, je ne voulais pas faire partie de cette magnifique ensemble d'amour. Je voulais plutôt rester en moi, je voulais avoir, d'accord, ce sentiment d'être moi-même, de spécificité, ou ce que le cours appelle la particularité. Je voulais être moi-même, mais j'étais en colère parce que je ne pouvais pas dégager le sentiment de mal faire. Tous les jours, je me tourne vers l'amour et je dis non. Et la conséquence de ce non très féroce, très fort, c'est quand même que je me re-remplis de mal-être et de non-amour, forcément, tous les jours. Alors j'arrive, la porte est un peu entrouverte, je prends la porte, c'est pas peut-être un accident, et voilà, je hurle de douleur, et quelqu'un me demande ce qu'il y a, et je dis, c'était la porte. Est-ce que c'était la porte? Non, c'est pas la porte. C'est l'œuf cassé que je garde dans mon esprit, c'est la brisure de coquille que je pense être, ce qui est mon insistance, mon refus d'accepter de tourner vers l'amour et dire je t'écoute. Ça me remplit de ce sentiment de mal-être que je dois par la suite extérioriser, parce que l'ego en moi, ce qui est mon sens d'individualité, ne veut pas être responsable pour ses choix. Il ne veut pas être responsable pour le choix qu'il a fait de tourner le dos à l'amour. Parce que si jamais il savait que c'était lui qui s'est tourné le dos à l'amour, il sera obligé de faire le choix consciemment et clairement. Déjà, il sera quasiment horrifié par exactement ce qu'il est en train de faire tous les jours, s'il pense que l'amour et agressif et que peut attaquer l'amour. L'ego est capable de confondre les choses d'une façon assez extraordinaire. Il peut penser que l'amour est devenu la haine, est devenu la haine. Donc, si on pense effectivement que l'amour c'est la haine, on ne va pas se tourner vers l'amour. On va avoir très peur. Et d'ailleurs, si vous vous êtes posé la question d'où vient la Bible, voilà, vous commencez à voir peut-être quelques bruits d'idées, une fuite du ciel, dualité, voilà, qu'on a été soi-disant expulsé du ciel, on a été expulsé, mais ce n'était pas, soi-disant, ce n'était pas notre faute, vraiment. Pour une toute petite bêtise, j'ai mangé une pomme et soudain, je suis expulsé du ciel. Non, c'est nous qui sommes partis. C'est nous qui décidons de rester en dehors du ciel tous les jours. Et puis ici, vous demandez pourquoi le Dieu de la Bible est d'un jour, il est très favorable, il est très aimant, et l'autre jour après, il est rempli d'une rage complètement démente, c'est ça? Démente, capable d'anéantir ses ennemis. Voilà, c'est parce que l'amour peut devenir la haine pour l'ego. La projection, revenons à la projection, c'est juste pour dire que ce que j'essaie de faire pendant cette petite causerie, c'est de vous donner vraiment les grandes lignes, toucher les grandes lignes de l'idée de la séparation, la conséquence pour nous les pauvres petits êtres humains, remplis de notre culpabilité, le refus de l'amour et ma défense de mon individualité, de mon petit bout de coquille d'œuf cassé, et le phénomène de déni qui dit quel problème, et le phénomène de la projection qui dit de toute façon c'était pas moi, hein, c'était pas moi, je suis pas responsable. Pour commencer à parler maintenant du parcours vers le haut, parce que si jusqu'à là j'ai parlé de tout ce qui est la descente ou la descente, la transformation d'une unité en dualité, maintenant on veut parler quelques minutes de comment nous pouvons transformer notre expérience de dualité en non-dualité, c'est-à-dire commencer à remonter l'échelle dans notre sens, commencer à apercevoir que tout n'est pas ce que l'ego continue à nous dire à l'intérieur de ce que nous appelons l'esprit faux. Maintenant, on bascule esprit juste et nous allons voir que nous contenons aussi un autre esprit qui consiste des pensées complètement différentes de l'esprit faux. L'esprit juste dit nous sommes tous pareils. Donc, quand je critique quelqu'un, c'est parce que j'ai pris cette filtre de l'œuf cassé. Et j'avais envie de trouver une bouc émissaire pour ma colère, pour le sentiment profond de mal-être que j'ai chez moi. Le cours nous encourage à chercher les gens tous les jours à qui on a attribué notre mal-être et nous poser la question et faire douter des conseils de l'ego qui dit « c'est lui qui m'a fait mal ». Et la façon que nous faisons ça, c'est deux choses. Et ça, ce processus de réflexion maintenant, de contemplation sur ces phénomènes, des événements d'avoir croisé quelqu'un ou de se souvenir à la fin de la journée d'avoir critiqué quelqu'un ou une situation ou même soi-même. Ce processus, le cours appelle le pardon authentique. Le pardon parce que ça commence avec un jugement et ça finit avec amour, mais ce n'est pas le pardon traditionnel. Le pardon traditionnel, ce que le cours appelle le pardon pour détruire, accepte qu'un mal a été fait, mais ce n'est pas grave. C'est grave, mais bon, je ne te critique plus. Mais il rend réel le mal par sa réaction en moi. Ça, c'est le pardon pour détruire. C'est-à-dire, il n'y a pas de vrai pardon. Le vrai pardon dit qu'il n'y a pas eu de mal. Et la façon que nous approchons cette prise de conscience dans le cours, c'est avec deux petites étapes. En fait, c'est un petit peu plus compliqué, mais pour rendre plus facile à juste présenter. D'abord, quand il s'agit de quelqu'un qui vous a fait mal, on cherche à comprendre d'où ça vient en lui. Il faut essayer de voir l'œuf cassé qu'il a pendu devant ses yeux. Personne ici peut être tranquille au fond de lui. C'est impossible. Seul l'être qui a rejoint son esprit au sein de l'amour de Dieu, l'amour céleste, peut être vraiment tranquille. Sinon, on est dans un état de non-amour. Ce qui est cette séparation d'amour, cette culpabilité, cette haine et compagnie. Donc, on se rend compte que lui aussi, il contient cette filtre. Mais le filtre, c'est pas simplement le filtre. C'est un sentiment d'être un œuf cassé et de l'avoir cassé et probablement de le recasser demain encore s'il le faut et d'être profondément gêné. Il pense qu'il est un œuf cassé, comme moi. Voilà. On cherche à comprendre la similitude, l'exactitude parfaite que je partage avec mon frère, avec d'autres personnes. Si lui, il contient cette forme d'égoïsme, cette forme d'attaque, forcément, je l'ai aussi. Je n'ai qu'à chercher un petit peu pour voir à quel moment et quand j'ai eu le même sentiment. Je ne l'ai pas forcément exprimé de la même façon. C'est-à-dire que la forme de ma gêne ne s'est pas exprimée comme ça, mais je suis capable, et peut-être j'ai été capable, à faire les choses pareilles, ou au moins avoir la même motivation. Nous contenons le même esprit, nous faisons tous partie du même hologramme. Nous avons tous le même ADN de cette culpabilité, de cette mal-être ontologique, existentielle. Forcément, la personne que vous n'aimez pas, Jeanne Dubos, celui qui fait tam-tam avec sa chaîne Hi-Fi à 2h du matin quand vous essayez de dormir et lui, il ne partage pas les mêmes habitudes que vous, quelque part, vous aussi, vous êtes capable d'ignorer complètement les intérêts de notre personne et d'insister sur vos besoins aux dépens des autres. Nous avons tous cet aspect. Donc, la prochaine fois que nous essayons de porter un jugement virulent sur quelqu'un qui fait ce genre de choses, essayez de juste réfléchir si je ne contiens pas exactement la même qualité quand même, au moins naissant. D'avoir une pensée qui dit « Aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'intéresser aux autres, j'ai envie juste de m'intéresser à moi-même. Pourquoi ? Parce que je me sens un œuf cassé. Au moins, je me sens faible, je ne me sens pas bien, j'ai envie d'exister aux dépens de tout et de tout le monde. Je veux dire à tout le monde, je m'en fous. » Je dis pas, c'est peut-être pour vous culpabiliser, pour dire qu'il ne faut pas faire ça. Il faut juste qu'on commence à se rendre compte, à être honnête, enlever la voile du déni, la voile de l'oubli, pour savoir d'où tout ça vient. Le jour que j'ai besoin, juste dire, je m'en fous de tout le monde. Mais il y a aussi un sens positif de le faire, parce que la personne qui se soucie trop pour les autres, voilà, c'est une façon de rendre les autres encore, de casser cette unité que nous essayons de voir en disant qu'il y a d'autres gens qui sont plus importants que moi. C'est pas juste non plus. Je suis pas plus important et eux, ils sont pas plus importants. Donc, c'est assez subtil. Et l'ego est très, très subtil et sournois dans sa façon de s'accaparer de notre perception pour nous obliger à avoir les différences et tout ça. La première chose, c'est de voir notre similitude avec l'autre. La deuxième chose que nous faisons, nous voyons pourquoi nous souffrons aux mains des autres. Donc, c'est ce qui est ce que le cours appelle le but. Le but, l'objectif, la motivation, l'intention est un élément primordial dans notre travail avec le cours. C'est parce que c'est en étudiant pourquoi nous pensons ce que nous pensons que nous pouvons réfléchir sur notre motivation si nous voulons la garder. Mais tant qu'on balance les choses, on critique, on fait ceci, cela, et on ne se pose pas la question « Mais pourquoi j'ai fait tout ça ?» On ne risque pas de le changer. On ne risque pas d'avoir une autre expérience de la vie. Et le cours nous apprend que chaque fois que nous sommes gênés par quelque chose, que nous souffrons, chaque fois que nous critiquons, chaque fois que nous portons un jugement virulent, que nous sommes gênés ou que nous avons peur, c'est pour nous garder ça en place, l'œuf cassé. Ça me définit et ça me redéfinit et ça me redéfinit encore dans mon petit bout de coquille d'œuf cassé, dans ce que le cours appelle dans ma particularité, dans mon individualité, parce que ça me donne mes sentiments à moi, ça me donne mon expérience, ça me donne mon histoire. Je me tourne le dos encore une fois à l'amour qui est derrière moi, l'amour qui m'appelle, qui dit « Tu retournes vers moi, ces souffrances vont disparaître. Hein ?» Parce que ton esprit va retourner dans ton esprit juste, tu vas ressentir la parfaite unité de l'amour qui est présente, tu ne vas plus souffrir. Mais tu ne vas plus te sentir toi-même non plus. Soi-disant, pour l'ego, ça c'est un prix trop fort à payer. L'ego ne veut pas se sentir lui-même. C'est pour ça qu'il a fait tout cet univers. Après tout, il a travaillé 14 milliards d'années pour être ce qu'il est. Hein, c'est pas juste parce que l'amour, un joli bouquet de fleurs ou autre chose, et voilà, le monde dit, viens chez moi et tout sera rose, qu'il va dire, regarde tout ce que j'ai fabriqué, ça m'a pris du temps. La seule façon que nous allons, le seul moyen, la seule motivation que nous avons pour nous retourner vers l'amour, c'est de savoir que tout ce que nous avons fabriqué depuis 14 milliards d'années ne nous a pas rendu heureux. C'est tout. C'est un gros travail dans une hallucination, sacrée hallucination, mais ça ne nous a pas rendu heureux. Et c'est pour ça que pour faire du progrès avec le cours, bon, voilà, il faut qu'on sache que les choses que nous pensons qui nous rendent heureux dans nos vies, ne le faisons pas tout à fait. Pas forcément. Pas vraiment profondément. C'est, les bouddhistes partagent la même idée. Tout ici est éphémère. Tout ici est illusion. Notre bonheur ne peut pas venir des choses dans ce monde. Le coup partage exactement la même idée. Donc, c'est un chemin qui est terrible pour l'ego, parce que nous devons nous rendre compte à quel point ce monde est décevant et qu'il y a une déception après une autre. Jeannot Dubos me tende un énorme cadeau chaque fois qu'il fait une bêtise, chaque fois qu'il fait un truc que je suis obligé entre guillemets de critiquer. Il devient d'abord mon bouc émissaire quand je le critique, mais puisque je suis les leçons du cours, je comprends que je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense leçon numéro 5. Je suis toujours contrarié parce qu'à l'intérieur de moi, je me sens œuf cassé. Je regarde Jeannot Dubos et au lieu d'être bouc émissaire maintenant, il devient miroir. Il est miroir parce qu'il me renvoie ce que je pense de moi-même, ce que je suis moi-même. Freud, il a dit que les rêves sont sont la voie royale vers l'inconscient. Il utilisait les rêves, il étudiait les rêves des gens pour comprendre la nature de l'inconscient de la personne concernée, de ses patients. Le cours dit exactement la même chose, sauf que pour le cours, le rêve, c'est pas le rêve nocturne, mais le rêve diurne, c'est ça? D'accord? Le rêve diurne de la journée. Ceci est un rêve, une sorte de rêve, le rêve de ma vie. Jeannot Dubos a croisé mon chemin au stop, et voilà, c'est au lieu d'être, voilà, c'est le symbole dans dans mon rêve éveillé, sur lequel j'ai projeté, de la même façon que Freud, il a analysé comment on faisait la projection et l'association dans ses rêves la nuit. Nous faisons ça la journée avec ces gens qui ne sont pas responsables pour ce que je ressens. Il n'a pas. Jeannot Dubos qui m'a croisé mon chemin, il a grillé le stop, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est pas lui qui m'a rendu farouche, qui m'a rendu malheureux. J'ai été malheureux. Et je l'ai fait responsable pour ma condition. Ça, c'est un phénomène purement psychologique. C'est extrêmement dur accepter. Tellement on a besoin d'avoir des boucs émissaires, tellement on a besoin pour notre ego de voir les autres responsables pour ce qui se passe chez moi, pour garantir l'intégrité de mon individualité, de ma particularité, de ma forteresse, la forteresse de ma conscience personnelle par rapport à l'amour. C'est ma façon de garder l'amour à distance. Je dis, Jeannot Delpech du Boss et Marianne et toutes les autres, c'est eux qui sont responsables. J'y suis pour rien, je ne peux pas tourner vers vous. C'est les autres mécréants qui m'obligent d'être malheureux. Ce n'est pas parce que je vous aime bien. Ce n'est pas parce que je vous aime plus. Mais en réalité, c'est uniquement parce que je me tourne en dehors de l'amour, en dehors de l'unité, et je regarde avec le filtre de ma particularité, au lieu de regarder... Oh. Ça, c'est le filtre de l'œuf entier. Au lieu, maintenant, donc ça, c'est esprit juste, ça, c'est esprit faux, nous pouvons dire. J'ai le choix, bouc émissaire, miroir. D'accord ? Je me promène dans la rue, je vois des œufs cassés partout où je vais. Ou je dis, tiens, j'ai un choix. Je peux essayer de voir que derrière toutes ces apparences, l'œuf n'est pas cassé. C'est des apparences de malheur, c'est des apparences de difficultés, de problèmes, de souffrances. L'œuf est toujours entier, nous sommes tous assis confortablement dans nos fauteuils, au ciel, au paradis. Donc voilà, je pense que je vous ai donné largement assez pour ce soir.